15h-16h, si on en parlait, avec Christina Luzzi sur RCFM.
Soyez les bienvenus, je suis heureuse de vous retrouver dans ce tout nouveau rendez-vous hebdomadaire Si on en parlait, une nouvelle émission où on parlera des sujets qui vous préoccupent. C'est votre émission, hein. N'hésitez pas à me faire passer vos idées sujets sur les réseaux sociaux, famille, éducation, santé, voyage, relations amoureuses ou encore sexualité. Votre vie quotidienne à la sauce RCFM, ça sera tous les samedis entre 15h et 16h, en rediffusion tous les lundis soirs entre 21h et 22h et quand vous voulez en podcast sur notre site France Bleu RCFM. Nous sommes ensemble pour une heure. Aujourd'hui, on va parler des troubles TDAH, des difficultés à se concentrer et à s'organiser, de l'impulsivité, des émotions non contrôlables, une tendance à couper la parole et à multiplier les oublis. Le TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, est souvent diagnostiqué chez les enfants et pourtant il est fréquent chez les adultes. Les personnes TDAH, fâchées avec les contraintes et la routine, dépassées, voire épuisées à force de compenser les difficultés, en souffrent autant au travail que dans leur vie personnelle. On va en parler avec vous, Sébastien Webel, bonjour.
Bonjour.
Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes médecin psychiatre et chercheur aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Vous êtes responsable d'une consultation spécialisée sur le TDAH. Je suis ravie de vous accueillir.
Merci, je suis content d'être avec vous.
Martin Desailly, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre, psychothérapeute et professeur à l'université de Namur. Ravi de vous recevoir, vous également. Vous avez sorti un ouvrage ensemble aux éditions Erol intitulé « Manuel de l'hyperactivité et du déficit de l'attention ». J'ai vraiment adoré cet ouvrage. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur le sujet. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif. Selon les études, près de 4% des adultes en population générale seraient concernés par le TDAH, un trouble qui a longtemps fait l'objet de polémiques hein, quant à sa définition et à son existence même. Comment se manifeste ce trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité?
Alors, je commence.
Oui, allez-y.
On est à distance. Voilà. Donc, en fait, ça se manifeste par différents types de symptômes. Et en gros, on peut décrire trois grands groupes de symptômes classiques qui sont le déficit d'attention d'abord, difficulté à se concentrer, l'attention qui part tout le temps, hein, le fait de décrocher quand on écoute, le fait de décrocher quand on veut se concentrer sur une lecture. Alors, ça nous arrive à tous, mais chez cette personne, c'est très fréquent, très intense et très invalidant surtout. Ça les gêne pour plein de choses de la vie quotidienne, le travail, la famille, et aussi ça conduit à des oublis, des problèmes d'organisation, des grandes difficultés à aller au bout des choses. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a le côté hyperactif, hein, le fait d'être tendu tout le temps, tendu au point de pas tenir en place, de pas rester assis, être avec des nervosités qui peut être particulièrement pénible et en continu aussi. Mmh. Et à côté de ça, il y a aussi l'impulsivité, la tendance à réagir de façon trop rapide, sans réfléchir. Hein, on dit il faudrait tourner la langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, et là, c'est l'inverse tout le temps qui se passe.
Est-ce que c'est possible, justement, pour les personnes qui souffrent de ce trouble, de tourner la langue 7 fois dans sa bouche avant de parler?
Ben non, justement, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'ils savent bien la théorie, les personnes qui ont un TDAH, mais ils n'arrivent pas à l'appliquer, parce que justement, leur cerveau fonctionne peut-être un peu différemment de celui des gens qui n'ont pas de TDAH.
Alors, c'est un trouble qui est assez fréquent, hein. Il peut toucher tous les âges ?
On considère que c'est quelque chose qui évolue depuis, enfin, une personne l'a depuis toujours, en fait.
D'accord.
Et donc, on peut l'observer quand il est enfant, on peut l'observer quand il est ado, jeune adulte, mais même tardivement. Et ce qui change, en fait, c'est l'intensité des conséquences qui peut varier en fonction du contexte. Hein, le fait d'avoir l'école, par exemple, est souvent un endroit où l'attention est vraiment sollicitée et souvent ça se manifeste dans ce contexte-là. Mais chez des personnes qui ont beaucoup de facilité, ça se manifestera moins et ça pourra commencer à être vraiment notable ou gênant bien plus tard, par exemple pendant les études universitaires ou bien au travail, ou quand le travail change. Hein, une fois qu'on a un peu avancé dans sa carrière, on doit faire plus de tâches d'organisation, de planification, et ben c'est là que ça peut devenir très compliqué, et ayant été moins compliqué auparavant.
Alors, entre 3 et 10% des enfants et 4 à 5% des adultes seraient touchés par le TDAH. Est-ce que le diagnostic est toujours réalisé chez l'enfant, ou est-ce que, à l'instar de Greg LeMond, que vous prenez en exemple dans votre ouvrage, célèbre pour ses victoires en cyclisme, est-ce que le distinctif peut se faire plus tardivement ?
C'est une très bonne question et malheureusement, le diagnostic ne se fait pas toujours au bon moment. Et la majorité des patients ont ce qu'on appelle un errement diagnostique, c'est-à-dire que les médecins, les spécialistes qu'ils rencontrent ne vont pas toujours penser directement à ce diagnostic-là, à la fois lorsqu'ils sont enfants et à la fois lorsqu'ils sont adultes. Et la complexité qui va apparaître à la fois pour la personne qui souffre d'un TDAH et pour l'entourage, c'est que bien souvent d'autres diagnostics vont être posés et avec des conséquences quant à la considération de leur souffrance, la validation de ce qu'ils peuvent ressentir, ainsi que les traitements qu'ils vont pouvoir avoir qui ne seront pas forcément adaptés. Et c'est de diagnostic, parfois en diagnostic, que le bon diagnostic pourra être suivi. Donc on ne peut pas passer sous silence la nécessité de vraiment approfondir l'histoire diagnostique et de reprendre tout ce qui s'est passé depuis l'enfance et de pouvoir voir ces informations avec ce que l'entourage peut également apporter. Même pour les adultes, reprendre les informations de l'enfance permet d'avoir une meilleure compréhension et une meilleure fiabilité du diagnostic.
Justement, pour les parents qui nous écoutent et qui se posent peut-être la question cet après-midi de savoir si oui ou non leur enfant peut être TDAH, quels sont les symptômes et comment justement vous parlez de diagnostic, comment on pose ce diagnostic ?
Les symptômes chez l'enfant, c'est...
Parce qu'on entend souvent, ouais, il est mal élevé, il est hyperactif, ouais. C'est souvent ça qu'on entend, hein.
En fait, il faut voir l'association de différents symptômes de façon assez intense, hein. Et donc, l'hyperactivité, c'est souvent ce qui saute aux yeux parce que c'est ce qui gêne dans la classe, c'est ce qui gêne dans les activités périscolaires et tout ça. Et souvent, on ne regarde pas trop les autres aspects, hein, et on a souvent tendance à dire il ne veut pas ou il ne fait pas l'effort qu'il faudrait. Et donc, par exemple, un enfant qui n'arrive pas à recopier ce qui est marqué au tableau, on dit allez dépêche-toi, si tu faisais un effort tu y arriverais, ou concentre-toi, et on se rend pas compte que l'enfant n'y arrive pas tout simplement, et son esprit il part ailleurs tout le temps, et on dit il est rêveur, il est dans la lune, et voilà. Et donc souvent il y a une espèce de pensée que l'enfant ne fait pas exprès, hein, fait exprès, et on se rend pas compte qu'il ne peut pas le faire tout simplement, ou il ne peut pas le faire autant ou comme les autres. Et donc ça se manifeste donc par une rêverie, des oublis sans cesse, une lenteur ou bien une tendance à les côtés hyperactifs, ça peut être bouger, avoir besoin de s'interrompre tout le temps, le gigoter sur sa chaise. Et donc c'est la présence de symptômes sur le temps, dans un contexte, dans plusieurs contextes de la vie de l'enfant qui permettent de poser le diagnostic. Et c'est vraiment en analysant le fonctionnement de la personne, en analysant comment ça se passe, son histoire, qu'on arrive à poser un diagnostic. C'est par la discussion, l'analyse de tous ces paramètres. Il n'y a pas de test qui permette de poser le diagnostic en vrai.
Comme il peut l'être pour les enfants HP, on va en parler, hein, puisque les troubles peuvent être associés, mais il n'y a pas vraiment de test à proprement parler. C'est vraiment, ça sera vraiment à l'interprétation, entre guillemets, du psychiatre qui suivra la personne.
Tout à fait. Il peut y avoir des tests qui peuvent donner des orientations sur le fonctionnement de certaines fonctions, comme l'attention, la mémoire, qui peuvent orienter, mais ils ne pourront pas être suffisants pour poser un diagnostic.
Est-ce que vous parliez tout à l'heure, on disait, hein, oui, il est rêveur, il est dans la lune, il fait exprès. Est-ce qu'il y a des facteurs de fixation, entre guillemets, du trouble ?
Il existe un profil de fonctionnement du cerveau qui est assez déterminé, très tôt, hein, c'est en grande partie par la génétique. Et ça donne une sorte de profil qui, ensuite, au fur et à mesure des expériences, notamment s'il y a des expériences négatives, si on punit l'enfant sans cesse, il y aura des conséquences qui vont être de plus en plus importantes. Par exemple, il va détester l'école, il va être dans des comportements d'opposition. Et donc, le retentissement et donc la fixation de certaines difficultés va s'opérer comme ça. Donc, c'est important aussi d'aménager l'environnement, de bien comprendre comment les gens fonctionnent pour essayer d'adapter les choses, de reconnaître leurs difficultés et ne pas les accuser d'avoir ces difficultés pour que les choses se passent au mieux. Mais il est vrai qu'il y a un fonctionnement qui va rester probablement tout au long de la vie. Et il est important de vraiment le prendre en compte, et idéalement dès l'enfance.
Dès l'enfance, mais justement, est-ce que lorsque le TDAH n'est pas détecté dans cette enfance, est-ce qu'il peut être un facteur de risque pour le développement de troubles psychiatriques à l'adolescence ? Je pense notamment aux troubles de la personnalité, ou aux abus, ou à la dépendance aux drogues, par exemple.
Alors tout à fait, et c'est extrêmement important. de pouvoir le dépister dans la présence de comorbidité, s'il y a un abus de substance ou s'il y a d'autres troubles qui sont présents, de pouvoir se poser à chaque fois la question, mais y a-t-il éventuellement autre chose comme un TDAH, et de pouvoir faire une analyse vraiment minutieuse de l'histoire clinique de la personne. Cette analyse minutieuse rejoint le fait de ne pas moraliser finalement une éventuelle intention que l'enfant aurait de le faire exprès. Et cette moralisation peut être à la fois dans le chef de l'entourage, des amis à l'école, des collègues de travail, de la famille, en disant mais finalement ça fait partie de sa personnalité, il est comme ça, il est lent, il est distrait, et ne pas être considéré comme une maladie. Les auteurs qui ont écrit à six mains le manuel de l'hyperactivité et du déficit de l'attention ont voulu justement informer pour que cette information puisse déstigmatiser et considérer le problème comme un point de départ pour trouver des solutions à la fois psychothérapeutiques, et surtout psychothérapeutiques, et bien sûr pharmacologiques, puisque ces deux aspects sont également importants dans le trouble. L'abus de substance que l'on peut voir plus fréquemment chez les personnes avec un TDAH doit être considéré avec une certaine complexité. Souvent, l'utilisation de substances psychoactives dans le traitement du TDAH a fait craindre que ces substances psychoactives allaient entraîner une toxicomanie chez les personnes souffrant d'un TDAH. Or, il n'en est rien. Elles apportent un apaisement et une solution qui doit être combinée à la prise en charge psychothérapeutique. Donc, cette complexité finalement du rapport à la substance dans le TDAH et dans l'histoire du TDAH est particulièrement importante à comprendre. Donc, l'information est extrêmement importante pour pouvoir trouver de l'aide et in fine être aidé. Alors, les abus de substance ne sont pas les seuls risques de personnes souffrant d'un TDAH et non accompagnées, non traitées. Il y a d'autres problèmes et d'autres associations de pathologies qui peuvent être fréquemment vues, comme des troubles de l'humeur, comme des troubles de la personnalité, par exemple le trouble de la personnalité limitée.
On va poursuivre notre dossier justement sur les TDAH. Ça sera tout de suite après Jérusalem.
RCFM, si on en parlait.
Jérusalem, Ikayalami. Ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dauyami alikolana So ami au kulana kilo no lo sé su hambena mi dauyami ai kulana buso ami au kulana kilo no lo sé
Jérusalem.
RCFM, si on en parlait.
On parle des troubles TDAH cet après-midi. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Je vous rappelle que vous pouvez poser chaque semaine toutes vos questions en amont de l'émission sur mon compte Instagram. Je vous annonce le thème de l'émission en début de semaine qui aura lieu le samedi entre 15h et 16h. Vous me faites passer toutes vos questions et mes invités tenteront d'y répondre chaque semaine. Aujourd'hui avec moi pour parler du TDAH chez les adultes, Sébastien Webel, médecin psychiatre et chercheur aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Il est responsable d'une consultation spécialisée sur le TDAH. Martin Desey est médecin psychiatre, psychothérapeute et professeur à l'université de Namur. On a commencé à aborder les traitements. Est-ce qu'il y a un traitement ou comment on traite justement les troubles TDAH quand ils sont détectés chez l'enfant ?
Alors, il y a plusieurs axes de traitement. Le premier axe, c'est déjà comprendre. Et on appelle ça la psychoéducation, c'est-à-dire il faut que les parents, chez les enfants, c'est plutôt les parents qui doivent comprendre, mais aussi l'enfant en fonction de ses capacités, de son développement, comprendre comment il fonctionne et qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas, quelles sont les stratégies qui fonctionnent mieux, celles qui ne servent à rien, celles qu'il faut utiliser, celles qu'il faut essayer d'apprendre. Donc ça, c'est tout ce qui est psychoéducation et c'est hyper important. C'est pour ça que c'est un des objectifs de ce livre d'ailleurs. Et ça se fait alors soit avec le pédopsychiatre qui voit l'enfant et le psychologue ou d'autres personnes qui peuvent intervenir. Et c'est aussi important d'apprendre à l'entourage direct des enfants à l'école. Et donc il y a tout un travail de formation qui est indispensable auprès des enseignants. Ensuite, il y a l'approche psychothérapique. Et ça, c'est un travail qui est fait alors avec les enfants, avec les parents. Ça dépend de l'âge et de différents éléments du contexte. On peut apprendre certaines stratégies pour faire face aux difficultés d'attention, des stratégies pour faire face à l'impulsivité, ou bien aussi prendre en charge des problèmes d'anxiété qui peuvent s'être développés. Troisième volet, c'est le traitement. Donc chez l'enfant, on envisage d'utiliser le traitement dans le cas où, malgré les approches psychothérapiques ou les adaptations qui ont été mises en place, si tout ça ne suffit pas, ou si le tableau est vraiment très marqué. Le traitement, c'est en premier lieu un médicament qui s'appelle le méthylphénidate, qui est connu par le grand public surtout sous le nom Ritaline. Donc c'est un traitement qui est utilisé depuis de nombreuses années, il est connu depuis plus de 50 ans, voire 60 ans, et est utilisé dans le TDAH depuis plus de 20 ans maintenant, avec beaucoup de recul. Et ce traitement permet, donc c'est pas un calmant, c'est ce que les gens pensent souvent, c'est que c'est un calmant parce que les gens sont hyperactifs, donc on les calme. C'est pas du tout ça. On aide les enfants et les adultes aussi, parce que c'est le même traitement chez l'adulte, on aide les personnes à avoir une attention plus focalisée, plus stable. Et ça a des conséquences ensuite en termes d'amélioration de l'attention et aussi en termes d'amélioration de l'hyperactivité et de l'impulsivité.
Il n'y a pas de, j'ai envie de dire, de répercussions sur leur santé à proprement parler. Ils ne sont pas plus endormis ou plus amorphes.
Non, il n'y a pas de sédation. Par contre, certaines personnes peuvent ressentir des effets secondaires, comme avec tout médicament. Et il peut y avoir parfois certaines personnes qui disent « Ah ouais, mais quand je prends le traitement, j'ai moins les idées qui partent dans tous les sens, et c'est moins drôle. » Effectivement, donc il faut trouver vraiment une question de dosage, de bien comprendre un peu qu'est-ce qu'on a besoin avec le traitement, en quoi il peut aider pour vraiment utiliser les effets du traitement de façon la plus efficiente.
Alors, on a pensé que ce trouble TDAH disparaissait à la fin de l'adolescence ou du moins au début de l'âge adulte. Mais en 2013, la cinquième édition du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders persiste et signe le TDAH va persister justement dans la majorité des cas à l'âge adulte.
Alors, tout à fait. C'est une vue de l'esprit d'imaginer qu'un trouble puisse disparaître d'un coup quand on passe d'un âge à l'autre. Et ce qui a été une intuition à un moment donné, a été confirmé par des études cliniques et épidémiologiques pour montrer que le trouble ne disparaît pas de manière subite une fois que les enfants ne sont plus des enfants, mais persiste au-delà d'un certain âge. Et ça rencontre finalement une limite, celle de nos représentations par rapport au trouble, et puis une limite aussi des études qui sont faites sur des tranches d'âge, et où on s'intéresse à une section de la population à la fois, ce qui nécessite aussi de pouvoir bien comprendre l'intérêt qu'il peut avoir ou non, documenté ou non au niveau scientifique, de tel ou tel type de traitement en fonction de tel ou tel symptôme. Et ces études sont en évolution, et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre toutes ces informations scientifiques qui sont mises dans le manuel de l'hyperactivité et du déficit de l'attention comme un outil de travail qui doit être un outil qui accompagne une prise en charge par les soignants en ambulatoire, en dehors de l'hôpital ou à l'hôpital, et qui doit être réanalysé également à la faveur de nouvelles études scientifiques qui ne manqueront pas de venir sur le sujet. Alors, le traitement est particulièrement important, mais il faut aussi mettre dans la balance ce que l'absence de traitement va aussi donner comme risque, et on a cité par exemple chez l'enfant, mais l'absence de traitement peut entraîner une augmentation des accidents domestiques, des chutes, une chute de sa chaise à l'école, une chute à domicile, ou des distractions qui peuvent blesser l'individu. Et c'est certainement à mettre en balance avec une observation particulière du traitement par méthylphénidate qu'il va falloir faire, tout simplement parce que c'est un médicament pour lequel on fait aussi un bilan de base biologique avant, après et pendant le suivi. Pourquoi ? Parce qu'il peut monter la tension et qu'une surveillance cardiovasculaire peut et doit être réalisée chez les personnes qui en prennent. Rien d'anormal à cela et rien d'effrayant puisque la majorité des traitements doivent s'accompagner d'une surveillance, et c'est pour ça qu'ils sont prescrits par un médecin, et dans le cadre d'un suivi, ce n'est pas juste un traitement hors d'un suivi psychothérapeutique et d'un suivi clinique, bien évidemment.
Alors on dit le trouble ne disparaîtrait pas, hein, du coup il persisterait à l'âge adulte. Du coup, les traitements, c'est un traitement à vie ?
Alors, les choses dépendent beaucoup, c'est très dépendant de la situation, je veux dire. En fait, c'est pas parce qu'on a un TDAH qu'on doit avoir un traitement médicamenteux à vie. Le TDAH peut être plus ou moins intense en fonction du contexte, de la moment de la vie, de la scolarité ou d'autres difficultés ou d'autres enjeux. Et donc, quand on a un TDAH, on peut avoir des moments où finalement quelques adaptations suffisent, d'autres moments où on est plus en difficulté ou un traitement est nécessaire. Et donc, il n'y a pas la nécessité d'un traitement à vie a priori. Parfois, il faut se dire que le traitement, il y a un grand, grand bénéfice à le maintenir parce que il y a les conséquences de ne pas le prendre ou les bénéfices à le prendre sont largement plus importantes que les inconvénients liés au traitement. Dans certains cas, les personnes peuvent réussir à progresser suffisamment pour trouver des stratégies, notamment comportementales, qui permettent de limiter les conséquences du TDAH. Donc, c'est très dépendant de la situation. Mais on peut savoir qu'il n'y a pas de difficulté à arrêter le traitement, il n'y a pas de sevrage du traitement, il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a pas de besoin de prendre le traitement comme ça, comme d'autres traitements, comme d'autres produits stupéfiants ou comme pour la cigarette par exemple. D'ailleurs, les patients avec un TDAH ont beaucoup plus tendance à fumer des cigarettes parce que la nicotine aide à se concentrer. Donc, on peut tout à fait envisager de prendre un temps, de voir si on bénéficie d'un arrêt ou s'il faut mieux le continuer. C'est quelque chose qui peut se voir, mais dans le cadre du suivi sur le long terme.
Comment ça se passe au fil des années, la personne qui est atteinte d'un TDAH, elle trouve des stratégies pour pallier à ses symptômes et finalement pour les masquer ?
Alors, je veux vraiment rebondir sur cette question et poursuivre ce qu'expliquait Sébastien Weibel sur ce sujet et reciter un petit extrait de la préface de Daniela Brustolin, qui est la présidente de l'association suisse-romande de parents d'enfants avec déficit de l'attention ou sans avec ou sans hyperactivité, disant que au fur et à mesure du temps, le patient, la personne souffrant d'un TDAH devient spécialiste de son TDAH. Et ça, je pense que c'est une observation extrêmement importante. Il n'y a pas une dépendance complète au clinicien qui viendrait dire il y a un petit peu ceci, il y a un petit peu cela, mais un apprentissage par le patient et par l'entourage en fonction du contexte de ce qu'il doit apprendre comme stratégie, de ce qu'il doit utiliser comme stratégie pour pouvoir améliorer sa qualité de vie avec son TDAH, et citant là que le patient, l'adulte devient en quelque sorte un spécialiste de son TDAH dans le but de compenser efficacement ses difficultés, de s'améliorer et pourquoi pas de faire une force de son trouble. Et je pense que c'est la force aussi des patients souffrant d'un TDAH, des personnes souffrant d'un TDAH, c'est d'être insistant auprès des cliniciens pour qu'on puisse mieux les aider, mieux les comprendre. Et c'est vraiment un point commun de toutes les associations avec lesquelles on a pu être en contact, qu'il s'agisse d'associations en Suisse, au Québec, ou encore de représentants d'associations en Belgique. Les patients souhaitent participer, ils poussent les cliniciens à mieux comprendre et ils deviennent eux-mêmes les spécialistes de leur TDAH à pouvoir appliquer telle ou telle stratégie, qu'elle soit médicamenteuse ou non médicamenteuse.
Alors on va poursuivre ce dossier sur les TDAH, ça sera tout de suite après Imouvri, ni celle que tu crois.
Au soleil d'un mystère, je déroule mes voiles et je brave les temps. Je suis ce décor et je suis ce repère que caressent les vents. J'écoute les dires et j'adresse un sourire à ces mots que j'entends, à celui qui m'achète, à celui qui me vend. Pour le chant de ma langue et le nom de mes arbres et l'amour de mes gens, ceux qui m'ont ensemé, se graver dans le marbre, qui ont donné leur sang. Tous ceux qui m'ont offert de l'amour et ses frères qui m'étaient étrangers, ceux que j'ai reconnus dès qu'ils sont arrivés. Ma voile est puissante pour dissiper les doutes, s'il y avait un ciel, s'il y avait un chant. Une oreille qui écoute le secret d'une voix, les mots d'un enfant. Ma voile est puissante. Qui dirait sur les toits, dans les rues, sur les routes, le visage du bonheur que j'écris au printemps. Ma voile est puissante pour dissiper les doutes, s'il y avait un frère, s'il y avait un chant. Ma voile est puissante, une oreille qui écoute le secret d'une voix, les mots d'un enfant. Ma voile est puissante qui dirait sur les toits, combien je ne suis pas celle qui te convient et celle que tu crois. J'ai changé de couronne, j'ai changé de drapeau, dans ma vie tant de fois. En ont-ils une terre, des amours, des enfants, ceux qui parlent de moi. Savent-ils d'où je viens, savent-ils où je vais, et qu'auraient-ils donc fait. Qui je fus, qui je suis, mon ami le sais-tu. Mais ce qui ne tue pas, en plus fort et hardi, la douleur m'a appris. C'est à dos que je porte une étoile, une peine, un silence, un défi. Mais au seuil de ma porte, moi j'en fais une aubaine, moi j'en fais un cadeau. Que l'amour nous emporte toujours plus haut. Ma voile est puissante pour dissiper les doutes, s'il y avait un ciel, s'il y avait un chant. Ma voile est puissante, une oreille qui écoute le secret d'une voix, les mots d'un enfant. Ma voile est puissante. Qui dirait sur les toits, dans les rues, sur les routes, le visage du bonheur que j'ai pris au printemps. Ma voile est puissante pour dissiper les doutes, s'il y avait un frère, s'il y avait un chant. Ma voile est puissante, une oreille qui écoute le secret d'une voix, les mots d'un enfant. Ma voile est puissante qui dirait sur les toits, combien je ne suis pas celle qui te convient et celle que tu crois. Tu veux mon portrait, c'est souvent vu du ciel que tu vas me croiser. Au parfum d'immortel, en format d'aquarelle et sur papier glacé. Si tu veux me trouver, c'est dans les faits divers que mon nom est cité. C'est ainsi qu'à la une, dignement je me tais. Ma voile est puissante. Si tu cherches mon âme, c'est l'Afrique et l'Orient qui est tissé mon pays. Ma voile est puissante. Et je porte la flamme, nos racines en marchant, tous ceux qui nous relient. Ma voile est puissante. À ceux qui sont partis, que je n'ai convaincu, que je veux retrouver. Que je n'ai convaincu, que je veux retrouver. Ma voile est puissante. Pour dissiper les doutes, s'il y avait un frère, s'il y avait un chant. Ma voile est puissante. Une oreille qui écoute le secret d'une voix, les mots d'un enfant. Ma voile est puissante. Qui dirait sur les toits combien je ne suis pas celle qui te convient et celle que tu crois. Ma voile est puissante.
Celle qui te convient et celle que tu crois.
Ma voile est puissante.
Bella che ti conviene e quella che tu credi.
Ma voile est puissante.
Imovrini, celle que tu crois. Et notez que vous pourrez retrouver Jean-François Bernardini ce mardi 29 septembre à partir de 16h à Corte, au Spazio Nadal et Lugiani pour une rencontre partage, l'autre enquête Corse Canal inattendue avec Jean-François Bernardini d'Imovrini. L'entrée est libre.
Christine Allouz sur RCFM jusqu'à 16h.
On parle du trouble TDAH cet après-midi. Quelles sont les particularités du TDAH chez les adultes? Quels sont les symptômes, les difficultés qu'il génère? Quels sont les troubles fréquemment associés? Quels sont les liens également avec le haut potentiel et la bipolarité? Toutes les questions que vous vous posez également, c'est tout de suite dans Si on en parlait. Avec moi cet après-midi, Sébastien Webel, médecin psychiatre et chercheur aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Il est responsable d'une consultation spécialisée sur le TDAH. Et Martin Deseil, médecin psychiatre, psychothérapeute et professeur à l'université de Namur. Ils ont récemment sorti un ouvrage que j'adore ensemble, hein, aux éditions Erol, intitulé « Manuel de l'hyperactivité et du déficit de l'attention ». Je vous le conseille. Alors, on va tout de suite écouter. C'est un message qui nous est parvenu sur Instagram de Corinne.
Si on en parlait, vos témoignages.
Corinne qui nous dit merci pour cette émission. Chez nous, c'est agitation permanente. On a deux enfants avec mon mari. Ils sont tous de TDAH. Un de mes fils a même subi du harcèlement scolaire. Pensez-vous que le TDAH soit héréditaire?
Alors, c'est pas juste qu'on pense. Il y a vraiment des données scientifiques maintenant très robustes qui disent que le TDAH est un des troubles psychiatriques qui est le plus héritable. C'est-à-dire qu'il y a une bonne partie des facteurs qu'on ne connaît pas tous, mais qui font qu'on a un TDAH ou pas, qui sont inscrits dans nos gènes, en fait. Et donc, on retrouve très souvent dans les familles plusieurs personnes qui ont un TDAH. Et très souvent, les parents, quand ils ont leur enfant qui est diagnostiqué, pris en charge, ils se rendent compte qu'eux, ils ont été exactement pareils quand ils étaient enfants, qu'ils en ont souffert de ne pas avoir été compris, d'avoir eu énormément de difficultés à l'école ou avec les copains ou à la maison. Et souvent, on demande à ce moment-là d'avoir un diagnostic pour eux-mêmes et éventuellement un traitement.
Et donc, c'est à ce moment-là que certains se révèlent, entre guillemets.
Ah oui, ça arrive fréquemment. Ça arrive fréquemment que des personnes disent « Ben voilà, mon fils a été diagnostiqué, ben il a un traitement maintenant, ben voilà, mais moi j'étais pareil. Et aujourd'hui, au travail, ben je me rends compte que ben, c'est la galère et que j'arrive pas à me concentrer, ou bien que dans ma vie quotidienne, je suis insupportable parce que j'explose au niveau émotionnel. Voilà. Et souvent, le fait de traiter le TDAH du parent aide à avoir une ambiance un peu plus posée à la maison et une meilleure capacité pour aider son propre enfant.
Justement, vous parlez des explosions émotionnelles, elles peuvent être le signe d'un trouble TDAH?
Martin, tu peux répondre.
Oui, alors Martin, je vais répondre. Martin Deseil, vous êtes médecin psychiatre, psychothérapeute et professeur à l'université de Namur. Donc les explosions émotionnelles, est-ce qu'elles peuvent être le signe d'un TDAH?
Alors elles peuvent être le signe d'un TDAH. Il faut bien voir la composante justement de l'impulsivité, qui est un de ces grands groupes de symptômes qui peuvent être présents. Et ces difficultés émotionnelles sont parfois ce qui va faire confondre le trouble avec d'autres troubles comme le trouble de personnalité borderline ou d'autres troubles impliquant une dysrégulation des émotions. La régulation des émotions dans le TDAH est une stratégie de traitement à part entière et il faut pouvoir en tenir compte. Alors, ce n'est pas parce que on va identifier ces difficultés émotionnelles que identification ou un livre, le manuel de l'hyperactivité et du déficit d'attention, va venir cautionner toutes ces explosions émotionnelles ou ces difficultés que doivent vivre les proches. Donc, elles peuvent faire partie du trouble, mais ce n'est pas parce que ça peut faire partie du trouble que ça autorise de ne rien faire avec ou de regarder impassible ce qui se passe chez la personne qui souffre et faisant souffrir son entourage par le fait même de ces symptômes. Donc, ça doit être le point d'une description, d'une compréhension et puis d'un accompagnement au bénéfice à la fois de la personne qui souffre et de l'entourage qui peut souffrir de ces explosions émotionnelles.
Justement, il y a une étude qui montre que les adultes TDAH sont deux fois plus susceptibles de se séparer ou de divorcer. Ça veut dire que les personnes avec TDAH sont moins satisfaites de leur vie conjugale?
J'y vais alors. Ok, c'est pas forcément qu'ils sont insatisfaits, c'est que il y a plus de difficultés souvent, et quand il n'y a pas de compréhension de ce qui se passe, ça peut générer beaucoup de conflits. Ça peut être à cause des explosions émotionnelles, on en a déjà parlé, mais ça peut être aussi le fait d'avoir une relation qui peut être complètement déséquilibrée. Si une personne est tout le temps dans la procrastination, ne fait pas les tâches comme administratives, et qu'il n'y a pas un accord à la base dans le couple sur le fait que il faut qu'une personne s'en chargera car elle est plus à même de le faire et plus douée pour le faire, eh bien, ça peut générer des déséquilibres. Ou bien, chez les personnes TDAH, il y a souvent un attrait pour la nouveauté, avec une sensibilité à l'ennui qui est exacerbée. Et parfois, dans une relation, il y a besoin d'accepter certaines choses, de supporter des choses qui ne conviennent pas. Et donc, cette sensibilité à l'ennui peut conduire à peut-être aussi plus de difficultés conjugales. Mais on peut aussi avoir un TDAH et avoir des caractéristiques qui sont tout à fait sympathiques, hein, avoir plein d'idées tout le temps, énergique, ouvert d'esprit. Donc ça peut être aussi quelque chose de très très sympa de vivre avec une personne TDAH. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que les personnes TDAH ont tendance à être en couple ensemble plus facilement que parce que peut-être qu'elles ont un style qui s'accorde mieux.
TDAH entre eux, vous dites, hein, donc du coup.
Voilà, c'est ça.
Donc voilà, si vous êtes TDAH, si vous rencontrez quelqu'un, demandez-lui s'il est bien TDAH, hein, avant d'engager quoi que ce soit. Alors, on a une question de François à ce propos.
Si on en parlait, vos questions.
François qui nous dit « Je crois que ma femme a un TDAH, comment l'aider sans la blesser ? Merci pour cette émission. »
Alors, c'est une excellente question et j'imagine que beaucoup d'auditeurs peuvent se trouver dans cette situation complexe d'observer quelque chose chez leur compagne, chez leur compagnon, et puis et de voir ensuite qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose sans que ça ne risque de déboucher sur un conflit, une dispute. Donc, comment approcher cette difficulté ? Et je prolonge le propos de Sébastien, disant mais finalement ça pose la question du rôle que l'on a dans le couple, de ce qui est dit clairement sur le rôle de chacun, sur ce qui fait quoi, et puis surtout de voir le TDAH pas seulement comme des difficultés qui vont être apportées, mais aussi comme des points de force, un potentiel, puisque le proche qui a un TDAH peut être éventuellement plein d'énergie à un certain moment donné, et c'est peut-être ce qui a favorisé la rencontre et qui sait l'amour entre deux personnes à un moment donné.
Et peut-être ce qui a plu à François aussi, hein, quelque part.
Exactement. Donc voir le potentiel de son proche et voir ses difficultés, pouvoir voir l'impact sur soi-même des difficultés du proche est important, et pouvoir avoir une discussion calme et posée quant au rôle, ce qui est accepté, voir si on est la bonne oreille de son proche, si on est son assistant, si on est son avocat, si on est son bienfaiteur, ou si on est juste tout simplement son compagnon, sa compagne, pour pouvoir avoir une position qui soit acceptable, qui ne remplace pas un soignant, mais qui permette d'avancer dans une dynamique de couple, me semble tout à fait important. On peut aussi s'inspirer de différents stades de changement complexes tels que ceux décrits par Prochaska et Di Clemente dans ces stades de la propension, de la disposition au changement qui vont de la précontemplation à la contemplation, à une préparation, un passage à l'action et une maintenance dans un changement qui est éventuellement souhaité. Mais la clé de tout ça, pour pouvoir vouloir un changement, à un moment donné, il faut de l'information, et une chose simple peut-être à faire, c'est de lire, de s'informer et de, pourquoi pas, laisser traîner un livre, pourquoi pas le manuel de l'hyperactivité.
Exactement. Sur la table ce soir.
Et se dire, bien sûr, par hasard, elle pourrait le lire, voir que c'est pas si stigmatisant, ça peut être aidant et qu'il y a toute une série de choses à faire pour pouvoir aller plus loin sans qu'il ne s'agisse d'une discrimination, sans qu'il s'agisse d'une stigmatisation de problèmes qui ne serait que vu chez l'autre, et sans que ce ne soit un bon équilibre dans le couple. Donc vraiment, l'information, la transmission, le rôle dans ce couple, et voir le potentiel de l'autre, bien sûr, parce que c'est ça aussi, le potentiel, les forces qui ont plu et qui peuvent permettre au couple et aux personnes qui en souffrent, que ce soit la personne elle-même souffrant de TDAH ou le compagnon, la compagne, de pouvoir en sortir sans dommage et avec un renforcement même des liens du couple.
Vous parliez tout à l'heure de l'importance du diagnostic. Est-ce que justement François devrait lui dire tu pourrais consulter éventuellement ou c'est pas son rôle ?
Je pense qu'il faut, si on dit juste tu devrais consulter ou bien tu es TDAH, on risque d'aboutir à une situation de crispation. C'est peut-être il faut commencer par dire je suis en difficulté avec ta tendance à être bordélique ou voilà. J'ai vu qu'il existe un trouble qui s'appelle le TDAH et qui se manifeste comme ça. Qu'est-ce que toi tu en penses ? Plutôt que de dire tu es TDAH, tu n'as qu'à consulter. Hein, vous voyez la différence. Mm-hmm. Je pense qu'il faut être dans cette idée-là. Parce que si on dit à l'autre c'est de ta faute, on va vers un blocage à tous les coups.
Est-ce que justement il y en a qui viennent vous voir parce que leur conjoint justement leur a dit que ça devenait absolument insupportable ? Il y a des personnes qui viennent vers vous pour ces raisons ?
Oui, ça arrive souvent. Oui, ça arrive souvent. C'est quelque chose qui peut être le cas. Surtout chez les hommes qui ont peut-être plus de réticence à aller consulter un psychiatre, un psychologue. Et parfois, c'est des femmes qui les poussent un peu, ou bien ça peut être l'inverse également. Hein, je veux pas faire une catégorisation un peu simpliste, mais on a souvent ça, ou bien des situations où voilà le couple est au bord de l'explosion, ou bien voilà et on dit ok tu vas consulter sinon
je m'en vais.
Ça
François,
peut arriver,
on
ça
espère que vous n'en êtes pas là, hein, François. Du coup, c'est souvent un soulagement certainement pour les patients quand vous posez un diagnostic.
Alors c'est un soulagement. Ou pas, en fait, c'est un point de départ ou c'est une relecture finalement de toute une série d'événements, de vies au travers desquels ils sont passés. Ça permet de donner un autre sens et puis de voir que toutes des choses peuvent être classées ou étiquetées comme faisant partie du trouble, donc peuvent être un point de départ, une aide, mais c'est peut-être parfois la crainte aussi d'être réduit à son trouble et d'être vu uniquement comme ça. Et encore une fois, Le but des trois auteurs, donc Nader Perrou en Suisse, Sébastien Welbel en France et de moi-même en Belgique, ça a été vraiment d'avoir une approche respectueuse du patient, non stigmatisant et pouvant faire vraiment bien la balance entre les forces, le potentiel, mais la nécessité d'une information claire pour pouvoir aller plus loin.
Alors, on l'a évoqué, de nombreux troubles psychiatriques peuvent fréquemment être associés au TDAH, je pense au trouble 10, au TOP ou autres hauts potentiels. On en parlera tout de suite après Soprano, à nos héros du quotidien.
On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie. Sans vraiment le savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir. Combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air. Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre. Je n'avais plus le souffle pour faire tourner la roue. Jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. On a tous un jour eu ce moment de magie. Croiser ce héros, malgré lui, qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire. Et l'espoir fleurit à tous ces héros. Malgré eux, je voulais leur dire merci. On ne se connaît pas, mais vous m'avez tellement appris. Vos mots, vos sourires et vos larmes ont sauvé la vie. Vos combats m'ont appris à encaisser les coups. Et votre persévérance à me remettre debout. Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamin. Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment être un humain. Vous êtes ce second souffle qui m'a fait tourner la roue. Je remercie vous avoir mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. Peut-être qu'ils feront l'effet que vous avez eu sur ma vie. On a tous un jour eu ce moment de magie. Croiser ce héros malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire. Et l'espoir fleurit à tous ces héros malgré eux.
À nos héros du quotidien, Soprano.
RCFM, si on en parlait.
Alors, je disais juste avant la pause, je suis en compagnie aujourd'hui, on parle des troubles TDAH, de Sébastien Wobble, médecin psychiatre et chercheur aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Il est responsable d'une consultation spécialisée sur le TDAH. Martin Desailly, vous êtes médecin psychiatre, psychothérapeute et professeur à l'université de Namur. Alors, de nombreux troubles psychiatriques peuvent être fréquemment être associé au TDAH, je pense notamment aux troubles 10, au TOP ou autres au potentiel, ils sont détectés lors du premier examen clinique.
Pas forcément, on peut avoir des suspicions. Alors les troubles 10, les troubles positionnels, c'est surtout chez l'enfant et l'adolescent. À l'âge adulte, il y a d'autres troubles, les troubles anxieux, les troubles dépressifs et les troubles liés à l'usage de substances qui sont beaucoup plus prévalents. Alors on peut avoir des suspicions et donc c'est vraiment important de faire le tour du problème, de regarder quels sont les symptômes qui peuvent être mieux expliqués par un autre trouble et vice-versa, quels sont les symptômes qui ont été peut-être mal diagnostiqués. Donc pour l'enfant, par exemple, il convient de faire différents bilans avec une orthophoniste ou avec un psychologue ou un neuropsychologue pour essayer de repérer ces autres dimensions associées au TDAH, car elles sont souvent associées.
Alors, on parlait tout à l'heure de prise de médicaments qui se posent toujours quasiment à un moment donné pour la personne avec un TDAH. Pour ceux qui ne voudraient pas prendre de traitement médicamenteux ou qui ne le supporteraient pas, est-ce que suivre une psychothérapie pourrait être une bonne idée ?
Alors, c'est toujours une bonne idée de suivre une psychothérapie, que l'on prenne des médicaments ou non. Les médicaments seuls, c'est une chose, mais il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, devenir spécialiste de son trouble et mieux le connaître. Et ça passe par des stratégies, par exemple des stratégies visant à améliorer ses capacités d'attention et encore d'autres stratégies visant à mieux réguler ses émotions, mieux réguler le temps, mieux gérer son sommeil, mieux organiser différentes tâches que l'on doit faire. Donc oui, il y a énormément de choses à faire en dehors de la prise de médicaments, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est exclusif de la prise de médicaments, et ça devra bien dépendre dans la discussion avec le clinicien prescripteur de ce médicament du contexte, de la souffrance induite, des bénéfices et des risques liés à la prise ou à la non-prise du traitement.
Michel a une question pour vous.
Si on en parlait, vos questions.
Michel nous demande, comment peut-on améliorer ses capacités d'attention ?
Alors, on peut pas. Il n'y a pas de système qu'on peut faire pousser comme une plante, qu'on peut faire grandir, mais on peut s'entraîner à
Le mindfulness, ça peut être efficace chez les personnes TDAH, parce que vous disiez le cerveau, enfin les pensées partent un petit peu dans tous les sens. Ça peut être efficace.
Tout à fait. C'est ce qui est intéressant, c'est dans le mindfulness ou les approches pleine conscience, c'est d'apprendre à observer à quel endroit l'attention est. Et par exemple, apprendre à observer quand notre esprit part ailleurs. Ce qui se passe, ce que certaines personnes avec TDAH ont beaucoup de mal à faire. Ils ne se rendent pas compte tout de suite que leur esprit est en train de vagabonder, ou bien qu'ils ont été distraits, ou bien qu'ils viennent d'interrompre la tâche pour laquelle ils étaient déterminés à faire un effort. Ils viennent de l'interrompre pour faire autre chose parce que hop, leur attention est partie ailleurs. Apprendre à observer ses propres distractions, apprendre à prendre conscience de ça et de revenir du coup de nouveau tranquillement à son intention initiale, c'est quelque chose qui se travaille. On peut avoir une attention qui reste instable, mais on peut apprendre à observer comment elle fonctionne, être peut-être moins dans le jugement, moins dans quelque chose de punitif envers soi-même, mais peut-être essayer d'apprendre à voir ce qui se passe et du coup d'adapter son environnement pour ça, apprendre à ranger son bureau, apprendre à limiter le nombre de choses qu'on se demande en même temps, de faire en même temps, à avoir des intentions, des objectifs plus clairs. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment utiles et qui peuvent être tout à fait aidantes au quotidien.
Justement, on arrive en fin d'émission. Si vous aviez tous les deux un conseil à donner, enfin du moins la chose la plus importante à faire, je pense qu'on l'a compris, c'est le diagnostic le plus tôt possible.
Tout à fait, le diagnostic le plus tôt possible, puisque ça va entraîner la possibilité d'apprendre de nouvelles stratégies, de s'entraîner. Et bien sûr, l'image d'une solution magique qui serait totalement indépendante d'efforts attentionnels d'individu, d'efforts de structuration par rapport au sommeil, à la gestion du temps, aux émotions, doit être écartée. Il y a un vrai entraînement, un vrai travail à faire et un accompagnement qui peut être réalisé pour arriver à une autonomie beaucoup plus importante et une aptitude à négocier avec ses difficultés attentionnelles et son TDAH au fil du temps et à pouvoir mieux gérer tous ces aspects et en faire une force vraiment.
Merci beaucoup Sébastien Webel d'avoir été mon invité. Merci Martin Desailly. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet France Bleu RCFM. Vous pourrez la retrouver en podcast dès lundi soir entre 21h et 22h. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne très vite les nouveaux thèmes d'émission pour les semaines à suivre afin que vous puissiez poser toutes vos questions.
RCFM, si on en parle.